En fait, j'avais souhaité vraiment donner une suite à la première partie de partage que j'avais apporté ici même il y a 2 semaines, où j'avais été touché dans cette série de prédications qu'on a sur David. J'avais été particulièrement marqué par les lieux et les circonstances dans le plan de Dieu. Et à travers le personnage de David et tout ce qu'on a eu à voir jusqu'à présent, on s'est toujours rendu compte que Dieu nous localise dans un lieu précis. Et lorsqu'il nous localise, il nous appelle, il nous identifie. Et là, il nous distingue aussi, parce que la distinction vient de lui. David, le simple berger de troupeau, Dieu le distingue et fait de lui un grand berger du peuple. Donc précédemment, nous avons parlé des lieux, des événements et des circonstances dans le plan de Dieu pour notre vie. Outre la rencontre du salut, et Hélène tout à l'heure faisait mention de ça, bien évidemment, il y a cette rencontre du salut, mais il faut aller au-delà de cette rencontre du salut. Et c'est quelque chose d'assez spécial. David savait si bien discerner et saisir ces occasions-là. Outre dans la rencontre du salut, Dieu nous localise, il nous identifie, il nous distingue en vue du rôle qu'il veut nous voir prendre et jouer dans son œuvre. David avait cette grande capacité de se retrouver là où le Seigneur souhaitait le retrouver. Dans son quotidien, il accomplissait des tâches qui le formaient, le préparaient et le conduisaient pas à pas dans sa destinée. David savait aussi discerner les circonstances qui se présentaient à lui pour pouvoir avancer dans le plan du Seigneur. Et si on récapitule un instant, on peut se dire, alors qu'il n'est qu'un adolescent berger à Bethléem, David est localisé et identifié par le Seigneur qui le distingue en même temps. Après, David analyse la situation que le Seigneur place devant lui. Il se lève, il tue Goliath. C'était une circonstance. On a vu que David pouvait carrément dire non, ce n'est pas mon combat. Je ne suis venu délivrer qu'un paquet. Et il retourne. Mais David a senti que tiens, c'était une occasion. Il fallait la saisir. Il tue donc Goliath et pour lui commence une ascension. Rappelons-nous que c'est après avoir tué Goliath que David gagne en renommée. On commence à proclamer son nom un peu partout dans la ville. Il a tué ses 10 000 et Saül ses 1 000. Il devient un peu comme le chouchou du peuple. D'inconnu qu'il était, il devient le chouchou du peuple. David discerne les circonstances et ne cède point à la belle opportunité de tuer Saül. Encore, discerner les circonstances. Il a l'occasion de pouvoir se débarrasser de Saül, mais il comprend que non, ce n'est pas comme ça qu'il faut agir. Très facilement pour nous, on peut tomber dans ce piège-là. Mais regardons et remarquons encore cette capacité de David à discerner les circonstances et à ne pas se laisser embarquer là où il ne faut pas. Dans sa fuite, David se retrouve dans le désert avec sa troupe et rend un immense service. On avait vu que David, armé, équipé, pouvait très bien aller assiéger une ville où il avait tout. On a vu l'exemple des soldats russes. Quand ils ont assiégé les villes ukrainiennes, ils se servaient dans les banques, ils se servaient dans les supermarchés, ils avaient droit aux meilleures parts. Mais David, lui, choisit d'aller dans le désert, un lieu où il n'y a rien. Mais c'est bizarre. Mais dans le désert, il accomplit une œuvre remarquable. Et on rend témoignage de lui. David a servi de rempart. Amen. Les bergers qui étaient là, ils n'ont rien perdu tant que David était à leur côté. David triomphe des Philistins et des tribus voisines. Il ramène le coffre de l'Alliance à Jérusalem, organise les différentes fonctions autour de lui. Il nomme les musiciens, les prêtres pour le service. Le peuple est content et apaisé. Jusque-là, tout roule. Dieu promet la royauté pour toujours à David. Tout roule jusqu'à ce jour, jusqu'au jour où, on va le lire, 2 Samuel 11. Versets 1 à 5 et 14 à 17. La parole de Dieu nous dit, au printemps suivant, à l'époque où les rois ont coutume de partir en guerre, David envoya Joab et ses officiers en campagne à la tête de toute l'armée d'Israël. Ils ravagèrent le pays des Ammonites et mirent le siège devant Rabba, leur capitale. David était resté à Jérusalem. Or, vers le soir, après avoir fait la sieste, David se leva et alla se promener sur le toit en terrasse de son palais. De là, il aperçut une femme qui se baignait. Cette femme était très belle. David fit demander qui elle était et on lui dit, c'est Bathsheba, la fille d'Eliam, l'épouse d'Uri le Hittite. David envoya des messagers la chercher. Elle se rendit chez lui et il s'unit à elle. Elle venait de se purifier de ses règles. Puis elle retourna dans sa maison, mais voici qu'elle se trouva enceinte et envoya dire à David, j'attends un enfant. À partir du verset 14, le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et chargea Uri de la lui remettre. Dans cette lettre, il écrivit, place Uri en première ligne, là où le combat est le plus rude, puis retirez-vous en arrière pour qu'il soit touché et qu'il meure. Comme Joab faisait le siège de la ville, il plaça Uri à l'endroit qu'il savait garder par des soldats ennemis très valeureux. Les assiégés de la ville firent une sortie pour attaquer Joab. Ils tuèrent plusieurs soldats et officiers de l'armée et David. Uri le Hittite était parmi les victimes. Jusque-là, David était toujours au bon endroit. Il était toujours au lieu où il fallait. Et on se rend donc compte que le fait de se retrouver dans des lieux où nous ne sommes pas prévus y être, de fréquenter des endroits où le Seigneur, dans son plan, n'a pas prévu, nous expose à la tentation, nous livre au péché, aux assauts de l'ennemi, et dans certains cas, peuvent même mettre des vies, notre vie et celle des autres, en danger. Dans ce cas précis, David est censé être là où, de coutume, tous les soldats sont attendus, particulièrement en cette période de l'année. Le choix de David de déroger à cette règle, de rester en retrait et de s'offrir quelques flâneries, l'ont malheureusement exposé au voyeurisme, à la tentation, à la convoitise, à l'adultère et plus tard au meurtre. Petite liberté aux grandes conséquences. Et nous savons tous ce qui va en résulter. C'est le début des temps difficiles, même si à chaque fois, l'amour et la grâce de Dieu seront toujours présents. Mais là commencent des temps difficiles pour David. Voilà donc un événement qui fait basculer David dans une direction contraire à celle dans laquelle il était engagé jusqu'à présent. Le triomphe sur Goliath l'avait fait entrer dans une autre sphère. L'adultère va porter un terrible coup à sa vie et le place en position délicate devant Dieu et le peuple. Et si seulement il avait respecté la règle de toujours, on a envie de dire. Et si seulement. Et pour nous aussi, parfois, à regret, on dit, oh, si j'avais évité, si je ne m'étais pas retrouvé là-bas, si je n'avais pas entendu telle chose. Et si seulement. Pourtant, on était tellement fascinés par ses qualités irréprochables. Lisons aussi un texte qui s'apparente à ce qu'on vient de lire. Dans Jonas 1, à partir du verset 1 à 15. L'Éternel adressa la parole à Jonas, fils d'Amittai, en ces termes. Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants, car l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à moi. Jonas se mit en route pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit au port de Jaffa, où il trouva un navire en partance pour Tarsis. Il paya le prix de la traversée et descendit dans le bateau pour aller vers l'équipage à Tarsis, avec l'équipage à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer et déchaîna une si grande tempête que le navire menaçait de se briser. Les marins furent saisis de crainte et chacun se mit à implorer son Dieu. Puis ils jetèrent la cargaison par-dessus bord pour alléger le navire. Quant à Jonas, il était descendu dans la cale du bateau. Il s'était couché et dormait profondément. À partir du verset 7, il dit, « Pendant ce temps, les matelots se dirent entre eux, « Allons, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tiraient donc au sort et Jonas fut désigné. Alors ils lui demandèrent, « Fais-nous savoir qui nous attire ce malheur. » quelles sont tes occupations? D'où viens-tu? De quel pays? Et de quel peuple es-tu? » Jonas leur répondit, « Je suis hébreu, et je revers l'Éternel, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre. » Il leur apprit qu'ils s'enfuyaient loin de sa présence. Aussi, ces hommes furent-ils saisis d'une grande crainte. Jonas fuit loin du lieu où le Seigneur l'a envoyé. Il décide délibérément de se détourner de celui-là, ce lieu recommandé, d'être là où il faut, là où il est attendu, et au milieu des personnes vers lesquelles le Seigneur l'envoie. En agissant ainsi, Jonas met en danger sa propre vie et celle des autres. Notons toute l'inquiétude, l'angoisse, la panique qui s'empare des pauvres marins. Notons aussi le trouble que cela engendre et la décision difficile à laquelle Jonas les contraint de prendre. Il faut perdre une vie pour sauver celle des autres. Et si on regarde encore dans nos temps aujourd'hui, tellement les lois marines sont devenues assez drastiques. Les lois maritimes, pardon. Il y a obligation, par exemple, pour un bateau, pour des capitaines, de porter secours dès qu'il reçoit un signal d'alerte de quelqu'un en détresse en mer. Il y a obligation lorsque tu te retrouves dans ce périmètre-là. Et lorsqu'on se rend compte que dans ce bateau, on est plutôt obligé de jeter quelqu'un par-dessus bord, alors qu'il y a obligation plutôt de sauver. Difficile choix, les amis, lorsqu'on se retrouve loin de la présence de Dieu. On soumet des autres à des décisions parfois compliquées à prendre, parfois compliquées. Un homme est donc jeté à la mer parce qu'il désobéit. Et pour nous aussi, rendons-nous compte que lorsque nous nous retrouvons là où Dieu ne nous attend pas, dans des endroits que Dieu n'a pas permis, ce n'est pas uniquement nous. L'implication peut aller au-delà de notre simple personne. Ça touche aussi les autres. Nous nous rendons compte que s'éloigner ou être complètement à l'endroit où nous devons nous retrouver, les conséquences sont lourdes. Et ces conséquences sont à la fois morales et psychologiques. L'état de trouble vécu par les marins, et certainement par Bathsheba aussi, être abusé, en fait, abusé, voilà, adultère avec le roi, enceinte, elle se dit, mais comment je vais me cacher? Tout le monde sait que mon mari est à la guerre. Je suis sûr qu'elle a été troublée psychologiquement, elle a été touchée. Les conséquences aussi peuvent être matérielles. Regardons, les marins sont obligés de jeter toute la cargaison dans la mer. Toute la cargaison pour soulager le bateau. Ça fait des pertes. Si c'était des commerçants, des marins commerçants, ils perdent toute une marchandise. Les conséquences aussi peuvent être relationnelles. Il y a des tensions, des suspicions, la perte d'estime envers l'autre. Et les conséquences aussi peuvent être humaines, perte de la vie humaine. Et les conséquences, on voit le cas du riz. Et les conséquences aussi peuvent être spirituelles, effritement de la relation avec Dieu et punition aussi. David, à ce moment-là, va recevoir une punition de Dieu parce qu'il s'est trouvé là où il ne fallait pas. Et pourtant, il allait de bénédiction en bénédiction. Revenons donc au cas précis de David, de ce qu'on connaît de lui avant cet épisode. On peut se demander comment lui s'y avisait, si rigoureux dans sa conduite, le berger des troupeaux et du peuple pouvait-il se transformer en loup pour des brebis? Parce que là, c'est l'interprétation que ça donne. Ça veut dire que si les choses ne vont pas, David trouve un stratagème pour t'éliminer. Il devient un loup pour les brebis qu'il est censé conduire. Mais comment est-ce qu'il est arrivé là, à un assassin déguisé? Regardons cette situation à la lumière de ce psaume de confiance que lui-même il a écrit, à l'image de berger qu'il attribue à Dieu, qui lui est familier. Cette image qui lui sert aussi à exprimer toute sa confiance à Dieu, se rapporte aussi très bien à lui dans son rôle de conducteur et protecteur du troupeau et du peuple. De même que David applique l'image de berger à Dieu dans sa relation avec lui, osons juste un instant, en lisant ce psaume qui nous est tous commun, parce que nous le proclamons, nous le récitons, nous le chantons, nous le méditons, osons nous permettre une petite métaphore. Imaginez les brebis et le peuple qui disent, ils disent, David est notre berger, nous ne manquerons de rien. Grâce à lui, nous nous reposons dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui nous conduit au bord des eaux calmes. C'est vrai, jusque-là, c'est ce que David faisait. C'est vrai pour les moutons, c'est vrai pour le peuple, jusqu'à un certain niveau. Ils avaient trouvé un guide, un leader, un valeureux, courageux roi. David offrait sécurité et espérance. Et si on continue, David nous revigore. Et pour l'honneur de son nom, il nous conduit sur le droit chemin. Voyons combien les soldats ont été encouragés, revigorés après la défaite de Goliath. Ils sont tous sortis pour poursuivre les Philistins et les assassiner. Ils ont détruit les Philistins et à plusieurs reprises, ils ont remporté de grandes victoires sur eux et sur les tribus voisines. David a gagné en renommée. En l'honneur de son nom, il nous conduit. Dans la droiture aussi, David refuse de tuer Saül parce qu'il y a la reconnaissance de l'onction qui est sur lui. Et David aussi ne fait pas de favoritisme. Rappelons-nous cet épisode où il partage équitablement le butin entre ceux qui sont allés à la guerre et ceux qui sont restés. Et le verset 4 dit, « Si je devais traverser la vallée où règne des pestes ténèbres, je ne craindrais aucun mal car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. » La présence fidèle et protectrice du Seigneur auprès de David peut être reprise aussi par les brebis et le peuple. D'ailleurs, lui-même, il le dit, si un loup ou un ours attaquait une bête, il allait délivrer. Je pense que le peuple aussi pouvait chanter, David, vraiment, est celui qui nous protège, il nous conduit, il nous garde. Il répondait de manière forte aussi lorsqu'il y avait danger pour rassurer et délivrer. Et c'est ce qu'il faisait par rapport à tout son peuple. Donc, voilà David qui, à cause du fait qu'il se retrouve dans un lieu qui n'était pas, où il n'était pas censé être, entraîne avec lui des conséquences graves. Et pire encore, en fait pas pire, bien évidemment, je veux juste faire un autre lien. Ne pas se retrouver dans le lieu, aussi, discerner les circonstances peuvent nous échapper. Et on va se rendre compte que, encore une fois, David va manquer l'occasion de vivre quelque chose. Ne pas discerner les circonstances. Dans 2 Samuel 13, à partir du verset 23-29, la parole de Dieu nous dit, « 2 ans plus tard, Absalom avait les tondeurs à Baal-Hatsor, près d'Éphraïm. Il invita tous les fils du roi. Il se rendit chez lui, chez le roi et lui dit, « Tu sais que ton serviteur fait tondre ses moutons, que le roi et ses hauts fonctionnaires veuillent bien venir chez ton serviteur. » Mais le roi lui répondit, « Non, mon fils, nous n'allons pas tous venir. Ce serait une trop lourde charge pour toi. » Absalom insista, mais le roi, refusant l'invitation, lui donna simplement sa bénédiction. Absalom reprit, « Si tu ne veux pas venir, permets au moins à mon frère Amon de nous accompagner. » Le roi lui dit, « Pourquoi t'accompagnerait-il ? » Mais Absalom insista tellement que David laissa partir avec lui Amon et tous les autres fils du roi. Verset 29, « Les serviteurs d'Absalom exécutaient les ordres de leur maître et tuaient Amnon. Aussitôt, tous les autres fils du roi se levèrent de table, enfourchèrent chacun son mulet et prirent la fuite. » Nous connaissons très bien cette histoire. Petit rappel, des années se sont écoulées sans la moindre reconnaissance ou la moindre repentance chez Amnon. David, qui jusque-là n'avait rien entrepris pour régler cela dans la famille, je me demande bien s'il croyait que les choses pouvaient s'arranger tout seul, si on pouvait juste étendre un tapis sur une pénible affaire de viol de Tamar par son frère, ou si les choses pouvaient être passées aux oubliettes, Mais ce qui est certain devant Dieu, des choses qu'on laisse parfois nous rattrapent. Amen. Mais Dieu n'est pas rancunier. Dieu nous accorde parfois une porte de sortie. Malheureusement, dans cette histoire, on ne reconnaît plus David, qui en fuite devant Saül avec sa troupe, comme je disais tantôt, choisit d'aller dans le désert. On ne retrouve pas David qui s'est évertué à trouver des rescapés à la lignée de Saül et de leur accorder faveur et grâce pour faire subsister la famille du défunt. On ne le retrouve pas. Là, il est face à sa propre famille. Il y a une occasion que le Seigneur met devant lui. Oui, tu as toléré telle chose. Tu n'as pas daigné lever le petit doigt lorsque ta fille s'est fait abuser par ton fils. Là où la division et des choses compliquées commencent à s'installer, David ferme les yeux. Lui qui avait ce cœur si sensible à rendre service aux autres, il passe donc à côté d'une belle occasion de se retrouver avec tous ses enfants pour initier une vie de famille négligée et absente. Il passe à côté de l'occasion de régler les différents sournois qui gangrènent sa maison. Parce que ce qu'il ne règle pas, il n'oublie pas. Parce que dans le cœur de ses fils, il y a de la colère, il y a de la rancune qui est en train de grandir, de s'installer. Mais David ne perçoit pas ça. Mais tout simplement, au nom d'une certaine bienséance, d'une volonté de ne pas être de trop, de ne pas être une charge, il se défile au moment critique et il livre son fils à la vengeance du frère. Ou tout simplement, il livre le fils, il fait de son propre fils le meurtrier de son frère. David manque cette occasion. Parce que moi, je pense que si David avait accepté cette invitation, le simple fait d'être présent, c'est une dissuasion. On parle souvent de force de dissuasion. C'est quelque chose. En temps de guerre, très souvent, vous voyez, il y a des navires qui patrouillent là, qui passent. C'est de la dissuasion. La présence de David, s'il avait accepté cette invitation, aurait servi de dissuasion. Il aurait peut-être initié quelque chose. Voir tous ses fils être rassemblés. Aurait donné l'impression que tiens, ça c'est une famille unie autour de quelque chose. Et là, ça aurait peut-être enclenché le début. Mais là, l'excuse de David, moi, ça m'intrigue toujours. Nous ne voulons pas être de trop. Moi, j'aurais peut-être voulu qu'il soit malade. J'aurais peut-être voulu qu'il soit appelé à d'autres fonctions, que le combat sur un front l'appelle. Mais nous ne voulons pas être de trop. Je trouve ça léger. Vraiment léger. Et pourtant, les conséquences de cette légèreté sont énormes, les amis. Et c'est ce qui nous arrive aussi parfois lorsque nous manquons de discernement dans des situations. Il y a 2 semaines, je disais, parfois on veut protéger sa sensibilité. Parfois on veut dire à Dieu, mais Seigneur, tu sais que je suis sensible. Pourquoi tu m'exposes à telle chose? Tu sais que je ne supporte pas ça. Et pourtant, tout simplement, le Seigneur veut que nous discernions quelque chose et que nous agissions. Et si David avait discerné qu'à travers cette invitation, il y avait une belle occasion de construire sa famille. Le fait de ne pas être là où il faut, là où le Seigneur nous attend, dans l'espace qu'il veut qu'on occupe, nous expose à de multiples dangers. Ne pas pouvoir discerner les occasions qui sont placées devant nous, en vue de nous interpeller, de nous faire prendre conscience, de nous lever pour influencer et changer le cours des choses, conduit aussi à des dangers. Aujourd'hui, le danger de la mort est présent autour de nous. Ce n'est pas forcément ou uniquement la mort physique. Non, c'est bien plus grave encore. Il s'agit de la mort spirituelle de ceux qui sont autour de nous. Des gens se meurent. Il y a des circonstances, des rencontres et des témoignages que nous ne saisissons pas toujours. Des situations autour de nous, parfois si près, dans nos maisons, dans notre église, par lesquelles le Seigneur souhaite nous toucher, nous stimuler, ou créer un sursaut en nous, et pourtant nous nous gardons à distance, fermant les yeux et rendant insensibles nos cœurs. Tout ce que nous ne saisissons pas sont autant d'occasions que nous ratons, non seulement pour grandir avec le Seigneur, pour triompher, pour vivre la vie qu'il a vraiment préparée pour nous, mais en les ratant, nous exposons aussi les autres. Nous nous exposons et nous exposons les autres à des dangers difficiles. Donc, à travers cette lecture des lieux et des circonstances, pour ma part, je ne pense pas que David souhaite uniquement se présenter en nous comme un vaillant guerrier, un homme qui a su marcher dans l'obéissance et cheminer dans le plan de Dieu. Je ne pense pas qu'il veuille qu'on retienne tout simplement ce côté de remarquable roi et homme de louange, parce que son héritage comporte également ses faiblesses, ses limites, ses dérapages, ses péchés. En nous partageant ce versant de sa personne, je crois que le désir de David est de nous permettre d'en prendre pleinement conscience pour ne pas les reproduire. Pour ne pas les reproduire. Je pense aussi que son rôle, c'est de nous avertir des dangers qui nous guettent pour que nos attitudes, nos comportements, notre marche avec le Seigneur se passent encore mieux. Je pense qu'il souhaite pour chacun d'entre nous que nous soyons des femmes et des hommes selon le cœur de Dieu qui font de lui l'essentiel de notre vie. Amen. Je pense que ça aussi, David veut qu'on regarde à ce versant de sa personne pour être des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Lui, il a été un homme selon le cœur de Dieu parce qu'il avait cette grâce. Il tombait, il se relevait. Il pouvait dire, je préfère me livrer dans les mains du Dieu vivant. Alors, je veux être ce David qui dansait devant l'Éternel en ramenant l'âge. Je veux être ce David qui, au nom du Seigneur, s'est levé pour combattre et tuer Goliath, qui a conduit le peuple dans de nombreuses victoires, partagé le butin de guerre équitablement à tous. C'est David qui savait être où il fallait et qui avait cette habileté à comprendre les circonstances et à agir selon les attentes de Dieu. Je veux être ce David-là. Mais vous savez, je ne veux pas être uniquement ce David, mais aussi, je vais m'identifier à lui dans ses fautes, ses défauts, ses faiblesses, ses ratés. Et le Seigneur sait combien j'en ai. Amen. Et chacun de nous, on peut le dire. Mais comme lui, il a toujours fait, je désire ardemment venir au-devant de celui seul qui nous localise, nous choisit et nous distingue, et tomber entre ses mains, les mains du Dieu vivant, lorsque ça ne va pas. Lorsque je n'ai pas saisi l'occasion qu'il fallait, lorsque je n'ai pas discerné. Et ça, vraiment, c'est le vœu que je... Ce vœu, c'est l'objet de ma prière, pour moi. Et je souhaite aussi que chacun puisse se l'approprier. Tant d'occasions qu'on a souvent manquées, tant de lieux où on s'est retrouvé, il ne fallait pas. Peut-être qu'on n'a pas toujours l'information retour, mais peut-être que c'est une âme qui n'a pas été sauvée, parce qu'on n'a pas saisi l'occasion. Peut-être c'est un cœur qui a été blessé parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Pensons à toutes ces victimes, aux marins. Pensons à toute cette population touchée de voir David livrer Uri, prendre son épouse. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce que David a pensé aux conséquences lointaines? Parce que parfois, c'est aussi la source de découragement pour d'autres. Ah, mais tiens, c'est comme ça que... L'évangile est, s'il faut agir ainsi, je préfère ne pas m'engager. Et les gens sont en retrait. Parce que, quoi qu'on fasse, les regards sont tournés vers nous. Ce qu'on croit ne pas être vu est visible et peut être source de scandale pour quelqu'un. Alors je souhaite tout simplement qu'on puisse, lorsque ça ne va pas, avoir cette attitude de David. Tomber entre les mains du Dieu vivant, qui a toujours compassion. Amen.
Merci beaucoup, Edouard. Oui, oui.